Bonsoir. 18 février 2006, 18 février 2016. Cela fait 10 ans depuis que l'actuelle constitution de la RDC est en vigueur. Quel bilan dressé de l'application de la loi fondamentale congolaise pendant cette décennie? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois professeur André Mbata. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa et dans plusieurs universités à l'étranger. Également directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Christian Muganza, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes analyste politique. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La constitution de la RDC a été promulguée le 18 février 2006. 10 ans après, qu'en est-il de son application? À part le mérite d'exister, le constitutionnaliste Jacques Joly estime que le bilan est mitigé, mais avec une tendance positive. On l'écoute.
Depuis 2006, ça fait jour pour jour 10 ans que notre constitution vient d'atteindre 10 ans. Vu que nous sommes dans une année électorale, c'est une année trop mouvementée. On veut que les dirigeants puissent respecter cette constitution, mais aussi que la CENI puisse organiser des élections dans les délais constitutionnels. Depuis 3 jours à partir du 16, 17 et aujourd'hui 18, nous avions lancé une action, une minute citoyenne, qui consistait à siffler chaque 12 heures, à tambouriner. Et cela s'est observé un peu partout dans la ville. Et aujourd'hui, on clôture ici au niveau des Major Vangu où il y a un engouement de la population qui a compris les messages, parce que le bien fondé du mouvement réveil des indignés est de sensibiliser et de promouvoir des valeurs démocratiques et républicaines, parce que nous nous sommes rendus compte que notre population est ignorante et les hommes politiques cherchent à abuser de cette ignorance pour faire passer ses idées. Alors nous nous sommes dit, on pourra prendre cette journée pour essayer encore d'expliquer au peuple le bien fondé et l'importance des élections dans un état démocratique.
Voilà, veuillez nous excuser pour cette petite confusion. Vous avez compris qu'il ne s'agissait pas là du professeur Jacques Joly. Nous allons l'écouter au micro de Radio Capi.
Si on voit la dynamique qui a sous-tendu la mise en œuvre de cette constitution, elle a connu cette dynamique énormément de retard. Parce qu'on ne peut juger un texte que si l'ensemble des mécanismes qui sont mis en place ont été institués. Vous verrez que le pilier judiciaire n'est pas encore totalement mis en place. Nous avons une Cour constitutionnelle qui est en phase de balbutiement, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Donc l'ensemble du pilier judiciaire est encore à l'état de fluidité, ce qui nous empêche de voir déjà, ne fût-ce qu'au plan architectural, la capacité réelle de cette constitution de fonctionner. Or, le pouvoir judiciaire, non simplement organique, mais dans sa substance, est l'élément qui fait la force de cette constitution. Les pouvoirs judiciaires n'existent pas encore comme nous aurions voulu, aussi bien dans toute son architecture, c'est jusqu'au niveau des tribunaux de paix, mais aussi dans ces 3 ordres prévus par la constitution. En ce qui concerne le pouvoir législatif, vous voyez aujourd'hui qu'au niveau national, ça fonctionne plus ou moins, mais il y a des anormalités démocratiques. Le Sénat qui n'est pas renouvelé, les assemblées provinciales qui ne fonctionnent pas, l'émergence des structures anti, voire extra-constitutionnelles, comme les commissaires spéciaux. Donc, au niveau de l'exécutif, il y a encore des niveaux importants qui ne sont pas mis en place, notamment les entités démocratiques locales.
Et donc, professeur, par rapport à tous ces éléments que vous évoquez, qu'est-ce qu'on peut dire? Le bilan par rapport à l'application, il est positif, négatif, mitigé?
Je dirais mitigé, mais avec une tendance positive, parce que le peuple s'est approprié cette constitution.
Professeur André Mbata, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa et dans plusieurs universités à l'étranger. Vous êtes aussi directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Avant d'aller plus loin, professeur, je rappelle que votre organisme a organisé, pour me répéter, un colloque à l'occasion des 10 ans de la Constitution. Un mot à ce sujet.
Merci beaucoup. C'est ce que nous avons commencé depuis ce matin, c'est-à-dire l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique organise à partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi un colloque international sur les 10 ans de la Constitution. Nous nous sommes dit, 10 ans après que cette Constitution a été promulguée, c'est un anniversaire important. Il était temps de célébrer, il était temps de se réunir ensemble, de réfléchir et de faire le bilan de la Constitution également et d'examiner les défis et les perspectives de consolidation démocratique dans notre pays.
Et qui sont les différents participants?
Les différents participants, ils sont venus de partout. Nous avons des participants étrangers. Nous avons des professeurs de la faculté de droit. Vous venez d'entendre le professeur Jacques Ndoli tout à l'heure. Il a été l'un des présentateurs à cette occasion. Il y a d'autres professeurs qui sont venus de plusieurs disciplines. Le professeur Nicole Boacha, le professeur Kenge Kenge, le professeur Sakata, plusieurs professeurs de la faculté de droit qui sont venus, des étudiants. Nous avons également des professeurs de l'Université d'Afrique du Sud et de l'Université de Ilorin au Nigeria. Nous avons des personnes qui sont venues du Bénin, de l'Éthiopie, et sans compter les nombreux étudiants, chefs de travaux, des doyens des facultés de Kinshasa qui sont venus également à cette conférence.
Sauf les officiels qui n'étaient pas au rendez-vous.
Dommage qu'une faculté de droit refuse formellement de célébrer un anniversaire de la Constitution. C'est comme si ce sont les politiciens qui devaient le faire sur le média. Ça, c'est vraiment, dans ma vie de professeur d'université, c'est la première fois que je vois une faculté de droit refuser de réfléchir sur la Constitution à son 10e anniversaire.
Alors, nous refermons cette parenthèse, professeur. Quel bilan vous dressez de l'application de la Constitution de la RDC 10 ans après?
Bon, le bilan, le professeur Ndoli l'a dit, mais moi je pense qu'il est plutôt négatif.
Pourquoi?
Le bilan est plutôt négatif et le prof Ndoli l'a souligné. Nous avons eu une culture, c'est que mon collègue de la faculté de droit, Ambroise Kamukuni, appelle bien la fraude constitutionnelle.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire cette tendance à manipuler les textes, à violer l'esprit des textes, peut-être parfois maintenant la lettre, mais dans l'essentiel, on voudrait atteindre des résultats contraires à celui qui est prévu par le texte. C'est ça ce que plusieurs auteurs, notamment Ambroise Kamukuni que je cite, appellent la fraude constitutionnelle. Donc il y a eu cette tendance des gouvernants à vouloir tricher avec la Constitution, à faire dire à la Constitution ce qu'elle ne veut pas dire. C'est ça, par exemple, le cas des commissaires spéciaux que vous avez évoqué tout à l'heure. On voudrait c'est tout le monde qui veut interpréter la Constitution dans le sens qui lui donne raison. Toutes ces interprétations qu'on entend sur l'article 70, par exemple, sur le temps que le président fonctionne, le président doit rester en attendant son successeur, toutes ces interprétations, ça fait partie des mécanismes de la fraude.
Alors, professeur, vous parlez, en citant la fraude constitutionnelle, vous parlez de cette tendance à violer l'esprit des textes, mais il faut dire qu'il y a l'esprit et la lettre, voilà, du texte. Il faut en tenir compte.
Oui, mais l'esprit est de l'un plus important. Et lorsque vous étudiez les techniques d'interprétation constitutionnelle, parce que la Constitution, il faut le dire, ne s'interprète pas n'importe comment. Ce sont des cours de doctorat parfois, des masters, il faut les avoir appris. Il y a des méthodes d'interprétation constitutionnelle. L'interprétation littérale, grammaticale, telle qu'on l'applique, et fait partie du passé, c'est un peu comme les pasteurs qui interprètent les versets de la Bible en les citant seulement. Il y a l'esprit, l'interprétation téléologique. Qu'est-ce que la règle a voulu dire? Et dans le cas de la Constitution, pourquoi est-ce que cette Constitution est adoptée? C'est parce qu'on voulait mettre un terme à la crise récurrente de légitimité dans notre pays. On le lit dans l'exposé des motifs. On voulait établir finalement, après 40 ans de dictature, on voulait établir un état de droit réellement démocratique. C'est ça l'objectif visé par le constituant. C'est ça l'objectif qu'il faut poursuivre. Et lorsqu'on voudrait se détourner de cet objectif-là, on est dans la violation de la Constitution, pratiquement dans la fraude.
Alors, professeur, qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui pensent que la Constitution telle que promulguée en 2006 ne répond plus aux réalités congolaises?
Mais les réalités ont changé depuis quand? La Constitution a 10 ans. Je crois que la première des choses à faire, c'est appliquer d'abord ce que prévoit la Constitution. Appliquons-la. Nous disons tout, nous l'avons toujours dit. Aucune Constitution au monde n'est parfaite. La Constitution est l'œuvre d'être humain. Si les hommes et les femmes ne sont pas parfaits, comment voulez-vous que la Constitution soit parfaite? Dans aucun pays, il n'y a pas de Constitution parfaite. Mais celle qui existe, c'est la meilleure Constitution que nous ayons eue. Il faut d'abord l'appliquer. et puis on verra après. Lorsqu'on dit qu'il faut la changer après des générations, mais c'est cette même génération qui a adopté cette constitution, il n'y a pas une autre. Une génération, c'est 25 ans. C'est nous qui l'avons adoptée. Il y a plusieurs arguments, il y a des gens qui ont dit non, c'est une constitution étrangère. Mais ça, c'est insulter le peuple congolais. 85% de la population ont adopté cette constitution. J'ai participé à plusieurs constitutions, notamment celle de la République centrafricaine. Les experts peuvent être là. Ce n'est pas parce que les experts étrangers ont participé à une constitution qu'elle devient une constitution étrangère. Non. Le peuple congolais l'a adoptée. Respectons d'abord cette constitution. Et puis, on verra. C'est la meilleure constitution que nous ayons à l'heure actuelle. Il faut l'appliquer. Il faut la mettre en vigueur.
Et donc, pour le moment, selon vous, cette constitution n'a comme seul mérite que le fait d'exister?
Non. Elle n'a pas que le fait d'exister. Il faut aussi dire qu'elle a duré dans le temps. Et il faut dire que cette constitution est la troisième adoptée par référendum dans notre pays. La loi constitutionnelle de 60, la loi fondamentale, c'était une loi belge provisoire. Totalement belge. Pourquoi? Parce que proposée par le gouvernement belge, adoptée par le Parlement belge, promulguée par le roi de Belge, et publiée dans le journal Moniteur belge, comme toute autre loi belge. La première loi et constitution qui a été adoptée par référendum, c'est celle du 1er août 64. Et n'a fait que moins de 2 ans. Parce qu'avec le coup d'état de Mobutu, il était tombé en désuétude. La deuxième constitution adoptée par référendum, c'est celle du 24 juin 67. 4 ans après, Mobutu l'avait transformée et ça ne ressemblait plus à rien. Et cette constitution qui existe, pourquoi elle tient beaucoup? Officiellement, aujourd'hui, il n'y a aucun politicien qui vous dit qu'il n'aime pas la constitution, même si les œuvres sont contraires.
Merci. Christian Muganza, vous êtes analyste politique. Quel bilan vous dressez de l'application de la constitution 10 ans après?
Merci beaucoup. 10 ans après, je voudrais d'abord dire d'entrée de jeu que c'est un anniversaire que nous sommes en train de célébrer. Et j'ai l'honneur ici de me retrouver avec mon professeur. J'étais son ancien étudiant à l'université de Kinshasa. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec lui sur un même plateau. D'entrée de jeu, je voudrais rendre d'abord hommage au Parlement de la transition, qui est un véritable architecte de cette constitution promulguée en 2006. Le bureau de la Chambre basse à l'époque était représenté respectivement par les honorables Olivier Kamitatou et honorable Thomas Louaka, ainsi qu'au Sénat, c'était l'honorable sénateur Monseigneur Marini Bodo. Ainsi que leur bureau, je leur rends
alors,
hommage.
Alors, si on dépasse les aspects protocolaires dans le fond et la forme, quel est votre bilan?
Oui, le bilan est mitigé. Ici, je voudrais essayer de montrer combien il y a une sorte de transformation du constitutionnaliste quand il élabore la constitution sous une forme juridique. Une fois qu'il s'y mue en politique pour des intérêts qui sont les siens, il semble oublier, tel que le professeur vient de le dire, l'esprit et la lettre de la Constitution. 10 ans, ce n'est pas beaucoup pour un pays, mais on peut dire que on doit se forcer à focaliser notre attention sur les axes majeurs pouvant maintenir cette constitution viable même au-delà des années à venir. Je suis allé un peu dans mes recherches en essayant de montrer combien de fois cette constitution nous devons la chérir, autant que nous devons chérir aussi notre pays. La loi de loi, j'ai constaté que dans sa composition, sur le plan formel, nous avons une constitution qui contient 8 titres, 9 chapitres, 12 sections, 229 articles, plus ou moins 570 alinéas et enfin 10 paragraphes. Par une politique comparative, par une méthode comparative par rapport à d'autres constitutions des pays africains ayant la même dimension de la superficie comme la nôtre, ayant peut-être les mêmes problèmes comme le professeur a bien dit ici par rapport à l'exposé des motifs, parce que la constitution que nous avons actuellement est l'œuvre issue des belligérants, des belligérants politiques, des belligérants en groupes armés. Nous savons bien l'histoire au terme de l'accord global et inclusif.
Alors, cette comparaison, à quoi elle vous mène?
Oui, cette comparaison nous mène à dire que la Constitution que nous avons, c'est une des meilleures. Et nous devons la préserver telle qu'elle est et essayer de toucher, de faire de retouches ou d'envisager une applicabilité dans le fond. Parce que quand le constitutionnaliste, voudrais-je dire, s'immue en politique pour des intérêts qui sont les siens, il arrive justement à essayer de tripatrouiller et interpréter la Constitution pour sa propre guise.
Alors, si on devait retenir des éléments positifs dans l'application de cette Constitution, quels seraient-ils, selon vous?
Les éléments positifs, bon, il faut les chercher. Je dis d'abord...
Est-ce qu'il n'y en a pas, selon vous?
Si, il y en a.
Allez-y,
oui, merci. Oui, les éléments positifs, c'est d'abord, cette Constitution nous a permis d'organiser les élections, les deux cycles électoraux qui ont existé dans notre pays en 2006 et en 2011. Cette Constitution permet encore d'assurer la sécurité, l'ordre de biens et de personnes, la circulation de biens et de personnes à travers la République. Bien qu'il y a des poches résiduelles de foyers de tension permanente qui se trouvent à l'est de la République, mais nous voyons que la Constitution, elle peut encore, si on l'applique avec une volonté politique affichée, nous aider à aller de l'avant.
Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut considérer comme élément négatif?
Les éléments négatifs, bon, ils sont nombreux aussi. Le professeur vient de parler ici des commissaires spéciaux. On n'est pas là pour juger l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Les éléments négatifs également, c'est le fait qu'il y a eu un glissement très en longueur, très mis en longueur par rapport aux élections provinciales qui devraient avoir lieu. Légitimement ainsi les députés provinciaux qui exercent encore dans toute illégalité. Et aussi les sénateurs qui devrait émaner justement de ces élections-là. Donc le cycle électoral dans tout son ensemble.
Merci. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, quelle est votre analyse?
Oui, merci beaucoup, Jérôme. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Capi. Alors, par rapport à la Constitution, il faut bien se rendre compte que c'est un cadre général qui met en place, au fait, la structure, le fondement du régime politique et aussi le fondement de la RDC. Et dans ce fondement, on explique, au fait, le cadre qui doit être régi de manière globale. Et à partir de ce cadre revient la mise en œuvre de tout ce que ce texte prévoit. Et ici, après 10 ans, qu'on peut essayer de dire en termes de bilan, en termes de 10 ans, nous savons que le texte qui a été adopté donc par référendum est un texte fort ambitieux et qui a proposé, je pense, une architecture qui a été une architecture très équilibrée et qui a mis en place plusieurs niveaux de pouvoir, le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Par ailleurs aussi, a mis en place toute une série de mécanismes, notamment un système bicaméral, notamment une dualité au sommet de l'État. Mais alors, pour qu'un tel texte soit mis en œuvre de manière efficiente, il va de soi que la procédure de mettre tout ça en place est une procédure qui est assez lourde. C'est-à-dire, il faut dans un premier temps, après avoir mis le cadre qui est dans la Constitution, vous avez les lois qui doivent être promulguées pour permettre à ce que les différentes institutions qui sont prévues par ce texte soient viables. Ensuite, après les lois organiques, vous avez toute la procédure liée à la mise en place des institutions, et après la mise en place des institutions, il y a le choix des animateurs de ces institutions, et après le choix des animateurs de ces institutions, il y a tous les règlements de fonctionnement de ces institutions, et tout ça demande effectivement un peu de temps, et beaucoup de temps. Et parallèlement à tout ça, il y a un aspect qui est hyper important, c'est l'aspect de la volonté politique d'arriver à l'aboutissement et à la mise en place de ces différentes institutions. Ce qu'on a remarqué dans 10 ans, c'est qu'il y a eu des institutions qui ont été mises rapidement en place. Et bien sûr, ces institutions répondaient à des impératifs clairs qui sont liés à la consolidation du pouvoir, notamment, par exemple, la mise en place des institutions d'appui à la démocratie comme la CENI, la mise en place, bien sûr, du Parlement, la mise en place de toute une série d'autres organisations, d'autres institutions. Mais il y a, parallèlement à ça, malheureusement, d'autres institutions qui n'ont pas bénéficié de la même volonté politique pour pouvoir être mises en œuvre. Je donne un exemple, le Conseil économique, il a fallu attendre longtemps pour que ce Conseil économique soit mis en place. Il a fallu longtemps pour qu'on arrive à avoir, effectivement, le pouvoir judiciaire soit effectivement bien organisé. Il faut encore longtemps pour que l'architecture, la forme de l'État telle qu'elle est prévue par la Constitution, soit réellement mise en œuvre. Nous savons très bien qu'au niveau local, la situation est encore bloquée puisque la décentralisation ne s'applique pas encore telle que c'est prévu par les textes jusqu'au niveau au niveau local. Donc ça dépend effectivement de la volonté politique qui a été mise en œuvre pour pouvoir arriver à avoir le parachèvement en fait de toute l'architecture institutionnelle telle qu'elle a été prévue par le constituant congolais. Et je pense aussi que parallèlement à cette volonté politique, il y a aussi la question des moyens, c'est-à-dire grosso modo, lorsque l'on met en place des institutions, ces institutions s'accompagnent des moyens pour pouvoir fonctionner. Et professeur, ces moyens, on le sait très bien, c'est des moyens ressources humaines, moyens financiers, etc., 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 toute une série de moyens qui doivent être programmés et mis en place dans le cadre des stratégies qui sont définies par un gouvernement. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que le texte, c'est un beau texte qui est équilibré, qui est charpenté, mais qui, pour être vraiment, pour sortir l'essentiel de sa quintessence, il est essentiel que ce soit accompagné d'une volonté politique de pouvoir arriver à l'aboutissement de tout ce qui est prévu par ce texte.
Professeur, vous disiez tout à l'heure que le texte promulgué dans un contexte particulier était fort ambitieux. Peut-on dire qu'il n'avait pas été suffisamment réaliste?
Il est très réaliste du fait qu'il a prévu tous les cas de figure. Il a prévu tous les cas de figure qui sont indispensables pour un état de droit de pouvoir fonctionner de manière efficiente et de manière optimale. C'est-à-dire que rien n'a été laissé au hasard. Les droits fondamentaux, les différentes institutions qui sont mises en place, comment ces institutions vont fonctionner? Quels sont les rapports entre ces différentes institutions? Quels sont les moyens de sanction, etc., etc.? Le texte est très complet. Justement, parce que tout simplement, il fallait qu'il soit le plus complet possible et pour qu'il n'y ait pas le moindre trace, il n'y ait pas la moindre ambiguïté sur toute une série de questions fondamentales et qui pourraient laisser passer des interprétations, qui sont des interprétations douteuses et qui pourraient mettre à mal la cohérence de tout ce texte. Par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez très bien quand je parle justement de cette cohérence d'ensemble. Lorsqu'on a modifié la Constitution en 2011, en fait, on a modifié une bonne partie de la philosophie de ce qu'a voulu le constituant. Le constituant avait voulu qu'au niveau provincial, qu'il puisse y avoir une autonomie au niveau provincial, que cette autonomie provinciale soit le contrepoids de l'État central par rapport à la gestion de la chose publique. En modifiant la Constitution en 2011, en permettant, par exemple, au chef de l'État de pouvoir dissoudre les assemblées provinciales, ont déséquilibré ce que le constituant, l'esprit du constituant avait déjà prévu, ont déséquilibré les forces antagonismes entre l'État central et les provinces.
Merci. Professeur Mbata, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo au Nord Kivu.
Assistant Kambale Benga Carlos de Butembo au Nord Kivu, une loi, qu'elle soit durablement stable, doit procéder des coutumes même du peuple qui l'adopte. Autrement, elle passe très tôt pour un luxe corvéal. Étant donné que notre constitution actuelle semble avoir suivi un chemin inverse, elle ne peut qu'être écorchée dans sa mise en pratique. Après 10 ans de son expérimentation, il conviendrait que les Congolais trouvent, pour la relire et évaluer sans hypocrisie ni état d'âme, son degré d'adéquation avec les réalités du pays. En effet, rien ne fait de la clairvoyance l'apanage des rédacteurs du texte en vigueur.
Professeur Mbata.
Voilà, merci, assistant Kambale. Ce qu'il faut dire, c'est que si vous consultez aujourd'hui le peuple congolais, si vous demandez au peuple congolais à Butembo, il ne va pas vous dire qu'il n'aime pas cette constitution. Le peuple l'a adopté, peut-être tout le monde n'était pas au courant, mais demandez, allez dans les rues de Butembo, dites-leur si on doit évacuer cette constitution, ils vous diront non. Venez ici à Kinshasa, demandez aux Kinois, demandez aux Congolais de toutes nos provinces, dites-leur que vous voulez jeter cette constitution, c'est un chiffon de papier. Je vous dis, mon cher ami, on ne va pas vous écouter. Donc c'est pour dire que même si, quel que soit le contexte dans lequel elle était élaborée, en fin de compte, cette constitution adoptée par le peuple a fini par recevoir son quitus, par recevoir son autorité, son approbation de la part de l'immense partie de notre population.
Mais il y a aussi un sérieux problème de vulgarisation, professeur. Mmh. Cette constitution n'est pas visiblement très connue par la population selon certains observateurs.
Ben c'est vrai, ça c'est un problème. Et nous, au niveau de l'IDGPN, nous avons commencé au mois d'octobre, nous avions lancé la campagne de vulgarisation de la Constitution. C'est ainsi que nous sommes allés à Matadi, nous sommes allés au Kasaï occidental, central, et nous irons bientôt au Bandundu. C'est qu'il est important pour la consolidation de la démocratie que le peuple se l'approprie davantage. C'est ainsi que nous comptons si les moyens étaient mis en œuvre. S'il y avait beaucoup de gens qui aimaient cette Constitution, surtout dans les sphères du pouvoir, nous comptons la traduire dans les langues nationales. Et je vous dis que nous en avons produit déjà 50 000 constitutions avec le peu de moyens qu'on a, et on a distribué à la société civile, aux différentes ONG. Donc c'est un travail qui doit continuer pour que la démocratie puisse s'asseoir dans notre pays.
Professeur, il y a Alain Bolodjoy qui nous écrit de Kinshasa, qui dit, contrairement à ceux qui veulent nous plonger dans le mysticisme constitutionnel, j'estime modestement que cette constitution, voilà, j'y arrive, peut ou même doit être changée. Toute proportion gardée, elle reste un pacte entre les belligérants, bien qu'élargie à la société civile et à certains autres partis politiques. Il est de mauvaise aloi de considérer que cette constitution a été adoptée par le souverain primaire dès lors que sa vulgarisation n'a pas été faite avant et même après le fameux référendum.
Je crois que ça, il faut y redire. Alain peut aller aux États-Unis, qu'il aille à Massachusetts, qu'il aille à New York, il comprendra que même les Américains, cela ne signifie pas que tout le monde connaît la Constitution. J'invite Alain d'aller à Paris, aller à Nice, aller à Toulouse, ou aller en Belgique, demander le pauvre Kamamba parlait tout à l'heure. Personne ne va vous dire que tous les Belges connaissent la Constitution. Non. Et puis il faut être quand même... lorsque vous dites qu'elle doit être changée, dites ce qu'il faut changer. Est-ce qu'on doit changer les droits humains? C'est le titre premier. Qu'on enlève tous les titres des droits humains, il n'y a plus de droits humains, on change la Constitution? Alain, dites-moi, l'article premier, la RDC est un État indépendant et souverain. Qu'on change cela, on devient une monarchie? Non. Je crois que le problème ne se pose pas là. Et c'est comme l'a dit Charles Muganza tout à l'heure, nous devons chérir cette constitution. Qui aime la République doit aimer cette constitution.
Christian Muganza, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Gauthier m'a dit qu'à depuis Kinshasa, la constitution du 18 février 2006 est une jeune constitution. C'est parmi des modèles des constitutions les plus démocratiques du monde. Moi, je crois qu'elle reste seulement lettre morte pour quelques dispositions qui sont dedans. Notamment la retenue à la source des 40% des recettes de province, la gestion des médias par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et des communications, l'installation de la Cour de cassation, Conseil d'État, la non-impunité des hauts dignitaires, etc. Ce sont là des dispositions qui ne sont pas encore mises en exécution jusqu'aujourd'hui. Au stade actuel, il n'est pas opportun de modifier la Constitution, mais il faut plutôt l'expérimenter pour découvrir ses éventuelles imperfections. Par exemple, les coupages territoriaux, on doit d'abord tenter de faire face aux difficultés rencontrées sur le terrain, au lieu de vite penser à les retoucher. Que le peuple congolais jouisse du bien-être qui lui est garanti par sa constitution du 18 février 2006.
Christian Muganza, faut-il retoucher la constitution? Je posais la question au professeur tout à l'heure, c'était la proposition d'Alain Bolodjoy.
Monsieur Gauthier, je comprends votre préoccupation. Et je m'allie à vous par rapport à l'inquiétude criante que vous venez de montrer. Nous avons dit à l'entame de notre entretien que le problème majeur, c'est la mise en pratique et la volonté politique. La Constitution en elle-même ne pose pas un problème. Donc, les décideurs, les politiques, doivent comprendre que par rapport au temps nous impartis, il y a des matières qui sont prioritaires. Vous avez parlé, par exemple, notre constitution étant jeune, une lettre morte par rapport à la retenue de ressources au niveau des provinces, par rapport à l'autorité des médias, ainsi que le découpage territorial. Bien sûr, ce sont des faits que nous remarquons tous avec, malheureusement, un peu de stupéfaction, parce que nous ne savons pas le constituant qui aujourd'hui peut se retrouver au pouvoir change pour des raisons qui sont les siennes et arrive à nous produire un produit qui n'est pas fini au sens même de l'esprit de la Constitution. Et nous sommes tous inquiets par rapport à cela. C'est pourquoi je dis, M. Gauthier, des émissions pareilles et de colloques que le professeur Mbata essaie d'organiser à Kinshasa sont des astuces incitatives aux décideurs de pouvoir mettre en œuvre ce qui n'a pas été mis en œuvre dans le temps et tel que voulu par la Constitution elle-même et par le vœu de l'ensemble de la population.
Le professeur Bob Kabamba, dans son propos de tout à l'heure, a évoqué le fait que, en ce qui concerne la mise en œuvre, il y avait des procédures lourdes dans cette Constitution. Le péché ne proviendrait-il pas de cela?
La lourdeur des procédures, je ne pense pas que ça peut être nécessairement l'épine qu'il faille enlever. Ici, je veux essayer un peu de préciser l'application de la Constitution sur le plan pratique relève des questions éminemment politiques. Donc, au-delà de la volonté, il y a des clans au niveau de partis politiques, au niveau des décideurs, qui veulent maintenir une situation telle que pour leur fin. Et là, je crois que la Cour constitutionnelle pouvait peut-être se saisir de ce dossier pour entrer vraiment dans le vif. Cette lourdeur-là, ça peut nous servir peut-être de garde-fou aussi. Donc jusque-là, on peut dire que voyons voir peut-être pour les jours à venir. C'est une jeune constitution, comme nous venons de le dire. C'est un cas d'école. Nous ne cessons d'apprendre tous les jours.
Merci. Professeur Bob Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient également de Kinshasa.
Joseph Aile de Kinshasa Ngaliema. La constitution n'a pas été respectée comme en Occident. L'interprétation très subjective par la classe politique la rend de plus en plus faible. La révision de 2011 a été tout simplement motivée par la peur de la MP de voir les opposants se liguer au deuxième tour contre son candidat. Tous les autres articles ont été touchés pour accompagner l'article 71. Dès lors que la classe politique a constaté les irrégularités graves des élections du 28 novembre 2011, aucun camp, même dans l'opposition, n'a voulu brandir l'article 105 pour que le Sénat soit renouvelé en 2012. Or, les députés provinciaux continuent à voter les édits. Bref, la classe politique congolaise ne croit pas aux lois.
Professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup. Donc, il faut bien se rendre compte, lorsque l'on parle des textes de loi, c'est-à-dire que les textes sont écrits, sont élaborés, sont promulgués. Mais ceux qui sont chargés de la mise en œuvre, ce sont les hommes au sein des institutions qui sont chargés de la mise en œuvre de certains des textes. Des fois même, il y a un problème au niveau des animateurs des institutions telles qu'ils sont prévues par les textes, et ces animateurs commettent des abus ou font des mauvaises interprétations aux différents des textes, et on dit souvent, malheureusement, que c'est le texte qui est mauvais, c'est pas les textes généralement. C'est surtout cette question-là liée à la compréhension des textes. Par là, je veux dire que lorsque, effectivement, l'on se remet dans le contexte de la révision de 2011, là, de manière claire, sans ambiguïté, l'on le sait très bien, on l'a déjà écrit dans plusieurs publications, que la modification effectivement de la Constitution de 2011 a été faite de manière claire, la révision de 2011 a été faite dans un but tout à fait politique, ce qui n'est pas interdit, malheureusement, n'est pas interdit par la Constitution elle-même, elle n'interdit pas qu'on puisse la réviser, et le pouvoir en place, les rapports de force, si les rapports de force vont dans un sens, eh ben, ça va dans un sens que les gens veulent modifier ou réviser dans le sens de renforcer leur pouvoir ou leur régime. tout à fait ce genre de choses qui sont prévues par le texte lui-même et sur lesquelles on doit le faire. Dans un objectif, partout au monde, vous avez des modifications de révisions de constitution. En Belgique, vous parlez par exemple au niveau belge, on est en train de penser à modifier, à réviser encore la constitution pour donner plus d'autonomie au niveau fédéré, mais pourquoi, parce que dans les gouvernements, il y a un parti politique qui veut ça. Et donc, il veut atteindre ses objectifs par la modification des textes. En fait, ce sont des faits, des modifications et des révisions qui sont connues, et malheureusement, ce sont des faits que l'on connaît un peu partout dans le monde, réviser les textes pour que ça puisse aider à atteindre les objectifs que les politiciens se sont fixés.
Le professeur André Mbata a souligné qu'un autre mérite de cette constitution était qu'elle avait duré dans le temps. Comment faudrait-il 10 ans après entrevoir son avenir?
Je pense que l'avenir, si la volonté politique est manifeste, pour arriver à mettre en œuvre, ça veut dire mettre en œuvre tout ce qu'elle prévoit. Toutes les institutions qui sont prévues soient mises en œuvre. Et que si toutes les institutions sont mises en œuvre et qu'elles sont fonctionnelles et efficientes, je peux vous dire que la machine va tourner, c'est-à-dire que la machine va tourner, l'État va tourner, et on pourra, de manière claire, sans ambiguïté, améliorer la gouvernance du pays. Et certainement, lorsque vous avez 3 cours qui sont mises en place, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, cela permet de pouvoir arriver à diminuer le poids des uns et de certaines structures judiciaires qui existent actuellement, diminuer le poids de ces structures-là, les équilibrer par rapport à d'autres. Rien que ça, par exemple, ça permet de pouvoir arriver à améliorer une gouvernance au niveau judiciaire. Un autre exemple, la mise en place des systèmes de contrôle au niveau provincial permet effectivement de pouvoir contribuer à réguler les problèmes que l'on connaît au niveau provincial avec la gestion calamiteuse de certaines provinces. Donc il y a toute une série de choses qui sont prévues, que le texte a prévues, et qu'il faut la volonté politique de pouvoir arriver à les mettre en œuvre. La mise en œuvre de ça ne peut être que bénéfique pour la RDC.
Professeur Mbata, il y a certains analystes qui sont partisans pour la mise en place d'une nouvelle constitution carrément. Quels pourraient être, selon vous, les avantages et les inconvénients d'une telle démarche?
Mais ce serait la crise totale. Parce que ils vont mettre en... Pourquoi ils veulent une nouvelle constitution? Pourquoi ils veulent une nouvelle république? Ça n'a pas de sens. Mais tout cela, je comprends, ça participe de cette démarche de monarchisation du pouvoir et de plaire à des intérêts de ceux qui sont au pouvoir. À mon avis, et tout le monde l'a dit, il n'y a pas lieu de changer de constitution. Et le peuple congolais, c'est ça une nouveauté. Le peuple congolais ne changera pas, ne va pas autoriser cela. Ce que je peux dire à ce stade, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un a dit, la République démocratique du Congo, c'est notre pays. Nous devons l'aimer et la chérir. Aujourd'hui, le test sur lequel vous aimez la République démocratique du Congo, respectez la Constitution. Vous chérissez la République démocratique du Congo, respectez la Constitution. C'est ça le test aujourd'hui du patriotisme. Mais par contre, ceux qui cherchent les ennemis de la République, c'est parmi ceux qui n'aimeraient pas la Constitution.
Alors, il y a Dexon Hassani qui nous écrit de Kalima au Maniema qui dit, à mon avis, je dirais que le bilan de la Constitution pour cette décennie est complètement mitigé du fait que nous sommes parmi les 10 premiers pays au monde qui seraient en train de piétiner leur Constitution. La classe politique pourrait même donner un autre nom à cet ouvrage au lieu de l'appeler Constitution, professeur Mbata.
Bon, il faut être clair là-dessus. Même, je crois que tout le monde l'a dit. La Constitution, c'est un texte. C'est comme la Bible. La Bible ne peut pas échouer. La Constitution ne peut pas échouer. Ce sont les hommes qui échouent. Et quand ce sont les hommes qui échouent, et que c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, ceux qui veulent une nouvelle Constitution, si effectivement la Constitution ne peut pas échouer, ce sont les hommes qui échouent, au lieu de penser à changer la Constitution ou à changer de République, il faut par contre changer les hommes.
Alors, Christian Muganza, la RDC, aujourd'hui, pourrait-elle envisager un changement de constitution?
Non. Cette constitution est encore jeune. Elle n'est pas encore appliquée, à mon humble avis, ne serait-ce qu'à sa moitié, par rapport à ce que nous venons d'entendre de main de maître des experts. Le but de la maintenir en tant que telle est la consolidation du processus démocratique de notre pays. La démocratie, c'est un processus et la Constitution en fait partie des attributs pouvant justement mettre en œuvre ce processus-là. Nous avons dans les conditions dans lesquelles nous l'avons eue, l'essentiel c'est de l'appliquer telle qu'elle est d'abord, que les décideurs ayant le pouvoir régalien de pouvoir le faire fassent preuve de volonté politique et tout ira comme tel que souhaité par la grande majorité de Congolais.
Alors, dans un contexte comme celui que la RDC vit en ce moment, qu'est-ce qu'il faudrait pour préserver les acquis de cette constitution?
Bon, je ne veux pas ici présenter un tableau très obscur du contexte que nous sommes en train de vivre. Je sais qu'il y a, c'est vrai, des problèmes. Et en politologue, je veux dire que un politique, c'est quelqu'un qui doit anticiper. Et les textes en sa portée peuvent lui permettre justement de mettre en œuvre les moyens de ses politiques. Je ne suis pas d'avis de dire que, bon voilà, il y a peut-être un aspect apocalyptique si jamais cette constitution n'est pas changée, si jamais. Mais appliquons d'abord ce qui est applicable à l'intérieur.
Et le reste, on verra après.
Voilà.
Professeur Bob Kabamba, que faut-il pour préserver les acquis de cette constitution? Il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission.
Les acquis de la Constitution dépendent justement de la volonté des animateurs des différentes institutions, que ce soit président, ce gouvernement, parlement, assemblée provinciale, gouverneur, etc. Ça dépend effectivement de tout cet ensemble qui doivent mettre en œuvre cette Constitution. Et pour parler encore plus de manière plus crue en disant pour ceux qui veulent changer la Constitution, changer une Constitution ne résoudra pas le problème que les gens connaissent en disant c'est par rapport à la candidature, à la future candidature, possible potentielle candidature du chef de l'État à un nouveau mandat. Ce n'est pas ça qui est changé de la Constitution qui pourrait résoudre cette question de troisième mandat. Les gens posent mal le problème, posent mal la question et de ce fait essayent de trouver des mauvaises réponses en essayant de stigmatiser un texte qui, pour ma part, est un texte qui permet justement de pouvoir arriver à une harmonisation et éviter surtout une centralisation de pouvoir, mais arriver à avoir ce qu'on appelle un pouvoir équilibré entre les institutions qui soient dirigées par des gens qui sont élus par la population et qui soient surtout contrôlés par cette population. Et les autres questions liées qui se posent actuellement n'auront pas de réponse uniquement en changeant une constitution.
Merci, professeur, pour cette intervention qui avait déjà des allures de conclusion. Professeur Mbata, en guise de conclusion, qu'est-ce que la population congolaise qui vous suit en ce moment devrait retenir en ce qui concerne les acquis de cette constitution qu'il faudrait préserver?
Je crois que ce que la population congolaise doit retenir, c'est que c'est cette constitution qui fait la République. Sans cette constitution, il n'y a pas de RDC, il n'y a pas de nation. Eh bien, la population congolaise doit continuer à respecter cette constitution et à la défendre, parce que c'est elle qui nous fait comme république. Et je suis heureux de partager ce plateau avec Charles Munganza et le prof Bob Kabamba.
Christian Munganza,
je m'excuse. Nous allons pour notre part continuer le colloque. La fête continue et c'est dommage que le gouvernement ne l'ait pas organisé, mais ce n'est pas un problème. Nous aidons le gouvernement. Et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous attendons les membres du gouvernement, les membres du Parlement. Nous attendons les professeurs de la faculté de droit de l'UNIKIN et de toutes les facultés au colloque qui se termine samedi à 12h.
Merci, professeur Christian Munganza. En guise de conclusion, un mot pour terminer.
Autant il faut aimer la République démocratique du Congo et la chérir, autant il faut aussi aimer la Constitution et la chérir également. Je vous remercie aussi.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que je recevais professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, professeur André Mbata, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et dans plusieurs universités à l'étranger, également directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, également Christian Munganza, analyste politique. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Vous avez des réactions, des suggestions, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Au revoir.